9h26, alors on a eu finalement les détails hier de l'opération, le projet Collecteur, qui visait un réseau de blanchiment d'argent. Au total, il y a 17 personnes qui sont impliquées. Et quand on dit un réseau international, c'est vrai, là, quand vous regardez un peu le parcours de l'argent. Et une enquête majeure, donc, Montréal était touché, Toronto et 300 policiers ont participé à l'enquête comme telle. Le sergent François-Olivier Millette, qui est l'enquêteur principal au dossier, est avec nous. Monsieur Millette, bonjour.
Bonjour.
Juste qu'on explique exactement le plus clairement possible pour nos auditeurs, là. Quand on parle d'une opération de blanchiment d'argent, là, vous avez pris l'expression hier, c'est comme prendre l'argent dans ma poche gauche, mettons, puis de mettre ça dans ma poche droite, puis il y a un parcours, il y a une chaîne qu'on suit. Ce serait quoi, dans ce cas-là, les principaux mouvements de l'argent?
Mais en fait, l'organisation utilisait ce qu'on appelle un système informel de transfert de valeur, qui est aussi connu sous le nom de Hawala. Donc, on parle d'une organisation qui a à sa disposition des liquidités un peu partout dans le monde. Et donc, lorsqu'ils font la réception d'une somme à un endroit, ils sont capables de relâcher le montant équivalent ailleurs dans le monde en utilisant d'autres liquidités à leur disposition.
Donnez-moi un exemple de ça, là, pour que je comprenne bien. Par exemple, je sais pas, moi, il y a une organisation criminelle qui arrive en disant on a 1 million à placer.
Voilà.
Comment l'argent va voyager?
J'ai besoin d'acheminer 1 million au Mexique, notamment pour payer, disons, une importation de drogue. Alors, j'arrive avec une valise, ou plusieurs valises, en fait, contenant 1 million de dollars. Et l'organisation prend possession de cet argent-là, la garde ici, l'introduit dans son bassin de liquidité et utilise de l'argent à sa disposition en devise locale au Mexique pour pouvoir payer l'organisation criminelle.
Et l'argent ici est gardé où?
En fait, elle n'est pas gardée, elle est utilisée et donc elle sert à compenser d'autres transactions que l'organisation dont l'organisation se voit donner la responsabilité. Des transactions qui arriveraient de l'étranger et qui doivent être payées, donc compensées au Canada.
Est-ce que je me trompe si je dis que l'organisation joue le rôle d'une banque?
Et c'est exactement le cas. Les banques fonctionnent tout à fait de la même façon. Oui, c'est un réseau, tout à fait un réseau underground de bancaires.
Et le réseau se prend une cote? Pour la transaction.
Sur chaque transaction, le réseau va se prendre effectivement une commission qui va aller de 1 à 7 ou même 15 % parfois, dépendamment du niveau de dangerosité, du niveau de risque de la transaction.
Est-ce que pour faire ces transactions-là, ils utilisent les institutions traditionnelles? Est-ce qu'ils ouvrent des comptes de banque ou ils font simplement circuler l'argent comme ça, en ayant des endroits un peu partout, là, dans plusieurs pays,
oui,
avec la devise locale?
Je vous dirais que normalement, quand on parle d'un système Hawala ou un système informel de transfert de valeur, on tente d'éviter le plus possible l'utilisation des banques pour éviter les moyens de détection. Mais il arrive parfois qu'on utilise aussi les banques. À ce moment-là, on va créer une apparence de légitimité à la transaction. Donc, on va utiliser des entreprises qui ont des comptes bancaires et on va faire des télévirements en donnant des raisons, de fausses raisons aux télévirements. Donc, oui, on peut utiliser le système bancaire, mais dans une moindre proportion, je dirais.
Là, je ne vous demanderai pas de me dévoiler votre preuve ici ce matin, là, mais comment on fait pour suivre ces déplacements d'argent-là quand ce n'est pas dans le cadre de transactions officielles?
Mais en fait, on suit pas le cheminement de l'argent parce que, comme je l'ai expliqué, l'argent ne transfère pas, c'est seulement la valeur de la transaction qui est transférée. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les indicateurs, donc notamment les réceptions de sacs d'argent et ensuite l'acheminement de ces sacs d'argent-là et l'utilisation de l'argent dans le bassin de liquidité domestique. Comme par exemple, ici au Canada, on regarde l'utilisation qui était faite de l'argent comptant et on constate qu'elle devait être écoulée, notamment dans des bureaux de change de la région de Toronto ou notamment au travers de différents individus ou diverses compagnies.
Est-ce qu'il y a des facilitateurs? Parce que quand on parle de blanchiment, là, on va parler d'experts comptables, d'avocats fiscalistes. Est-ce qu'il y a ce genre d'individus qui gravitent autour des...
Ben, je vous dirais que tous les membres de ces organisations-là sont des facilitateurs professionnels. Donc, ils ont des connaissances particulières dans ces domaines. Mais je pourrais pas nécessairement dire qu'il y a des comptables peut-être, des banquiers ou autres. Non, ça j'irai pas jusque-là.
OK. Et ils ont choisi un certain nombre de pays. Je regardais votre liste, là, le Liban, par exemple, le Mexique. Est-ce qu'il y a des raisons précises pour lesquelles on retrouve ces pays-là, selon vous?
Ben, je vous dirais que la plupart des réseaux Hawala, à la base, ont besoin d'avoir un groupe. Je dirais pas nécessairement un groupe commun en diaspora à travers le monde. Okay? Donc, ça pourrait être, par exemple, une communauté qui peut avoir des gens qui résident partout à travers le monde et qui, donc, ont une certaine confiance entre eux. Donc, je vous dirais que donc, les liens sont géographiques, mais sont aussi culturels ou autres.
OK. Est-ce qu'il faisait affaire avec toutes les organisations criminelles? Est-ce qu'autant, je sais pas, les motards que la mafia italienne?
Oui, ou... c'est une question qu'on m'a posée beaucoup ces derniers jours parce qu'évidemment, tout le monde voudrait savoir si effectivement il y a des liens avec les grandes organisations criminelles de Montréal. Ce que je te dirais, c'est qu'on a identifié des cellules qu'on appelle des cellules d'importation qui utilisaient les services de l'organisation criminelle qu'on enquêtait. Par contre, nous, notre enquête était vraiment ciblée sur le réseau de blanchisseurs. Donc, on a fait des petits volets d'enquête pour démontrer que les gens qui venaient porter les sacs d'argent étaient dans les stupéfiants. On a fait des saisies stratégiques. On a saisi quand même une bonne quantité de stupéfiants. Par contre, on n'a pas été plus loin pour être capable de démontrer le lien direct entre ces cellules d'importation et les grandes organisations criminelles connues.
On peut penser à première vue qu'il y a quand même un lien dans la mesure où il y a des territoires contrôlés, puis que les gens qui font la revente, les indépendants, il y en a, là, mais pas tant que ça, bref...
Bien, c'est certain que pour pouvoir importer, pour pouvoir écouler des grandes quantités de stupéfiants, ça prend un réseau, et donc on connaît les groupes ici là, qui peuvent avoir ce genre de contact et de moyens.
Vous évaluez à combien la business de ce blanchiment-là?
Bien, je vous dirais qu'il y a tellement de capitaux qu'on a vu circuler et de comptabilité qu'on a retrouvé que c'est difficile même de mettre un chiffre parce que évidemment il y a la notion de toute la conversion en différentes devises également qui devrait être faite. Mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, la preuve démontre plusieurs centaines de millions qui seraient passés dans les mains du réseau.
C'est incroyable.
Oui, c'est effectivement incroyable.
Je regardais les biens saisis, là, et ce qui me fascine toujours, c'est de voir des gens qui n'hésitent pas à exposer leurs richesses. Des maisons hallucinantes, tu dis, ouais. Il me semble que je serais discret, moi, non?
Bien, évidemment, ces gens-là utilisent aussi toutes sortes de stratagèmes pour blanchir eux-mêmes la commission provenant de ces infractions de blanchiment-là. Donc, ils donnent une apparence légitime à toutes leurs possessions. Donc, évidemment, en apparence, tout semble légal. Mais lorsqu'on gratte un peu, on constate que les fonds proviennent des infractions.
Est-ce qu'on a un chef, c'est-à-dire le banquier en chef? Est-ce qu'il y a une structure? Comment ça fonctionne?
Oui, les réseaux criminels de transfert informel de valeurs sont normalement composés d'un collecteur, de coordonnateurs régionaux et souvent de ce qu'on appelle un contrôleur qui, lui, pourrait être situé outre-mer, notamment dans des endroits comme Dubaï et contrôler les différents bassins de liquidité à travers le monde.
OK. Parmi les gens là, qui ont été arrêtés, je pense qu'il y en a encore qui sont recherchés, là, ou en tout cas que vous voulez...
Il y en a trois encore.
Trois encore, bon. Oui. Est-ce que ça touche la totalité du réseau ou s'ils ont encore, à l'extérieur du Canada, des membres de leur organisation?
Il y a des membres des organisations qui, effectivement, sont à l'étranger et qui ne sont pas, pour l'instant, visés par des mandats d'arrestation. Je vous dirais que l'enquête continue, mais nous, on s'est principalement concentré sur tout le volet canadien. Mais je vous dirais que c'était vraiment un réseau composé de deux organisations qui étaient vraiment deux organisations qui opéraient au Canada, malgré leurs liens communs dans d'autres pays du monde, notamment les Émirats arabes unis, l'Iran et le Liban.
L'Iran, expliquez-moi ça. Parce que c'est, bon, les Émirats, OK, le Mexique, OK, l'Iran.
Ben, sans nécessairement dévoiler des éléments de preuve précis à l'enquête, ce que je vous dirais, c'est que pendant des années, il y a eu un embargo qui empêchait des capitaux de bouger à l'extérieur de l'Iran. Donc, ce que j'en comprends, c'est que les Iraniens ont beaucoup utilisé ce genre de méthode pour pouvoir sortir des capitaux de l'Iran, notamment vers le Canada. Puis vous savez, un des réseaux informels de transfert de valeur, c'est pas nécessairement illégal, c'est réglementé. Donc, quelqu'un qui voudrait opérer ce genre de réseau et qui serait enregistré à la CANAF, qui rapporterait les transactions douteuses, notamment de 10 000 $ et plus en argent comptant, ou qui ferait qui connaîtrait bien ses clients et les identifierait, pourrait opérer un tel réseau. Maintenant, c'est lorsqu'on donne un service clandestin et qu'on donne un service clandestin à des gens sachant ou croyant que l'argent qu'ils nous amènent provient d'infractions, que là, le réseau devient criminel.
Est-ce que, à votre connaissance, c'est le seul réseau qui opérait de cette façon-là au Québec?
Je dirais qu'avec les montants qu'on a vu être transigés, je crois que le réseau occupait vraiment une place de choix dans les moyens à la disposition des organisations criminelles pour envoyer des fonds à l'étranger. Oui, mais est-ce que c'est le seul? Probablement pas.
OK. Est-ce que vous avez l'impression que, disons, le crime organisé se retrouve en difficulté là, parce que leur banquier a fermé ses portes? En fait, vous avez fermé les portes de la banque, là.
Ben, c'est certain qu'on leur a coupé un moyen concret de pouvoir acheminer des capitaux vers des pays exportateurs, ça c'est certain.
Fait qu'ils doivent trouver un autre moyen là, pour faire leur paiement ou encore pour blanchir certaines activités.
En effet, en effet.
Ça fait 3 ans que vous travaillez là-dessus?
Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, mon équipe et moi, effectivement.
Ça doit être quand même particulier. Vous le savez, vous les suivez, vous amassez tranquillement la preuve.
On a débuté l'enquête avec une information, somme toute, assez minimale, à savoir qu'il y avait un individu dénommé Mike qui avait la capacité de déplacer 1 million $ vers la Colombie. Et on avait tout ce qu'on avait, c'était un numéro de téléphone. Alors, je vous dirais qu'avec des moyens d'enquête assez créatifs, on est arrivé à retracer et retisser la toile du réseau à partir du collecteur même qu'on a identifié comme étant le fameux individu nommé Mike.
Incroyable. Ouais. Ben, bravo. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Le sergent François-Olivier Millette, l'enquêteur principal au dossier dans le projet collecteur mené par la GRC 9h37. Pause et on revient après avec le sujet de tribune téléphonique que vous connaissez déjà, mais je vais vous le reformuler dans 2 minutes.